Première émission de 2011, nous remonterons le fil de l'histoire avec des invités venant du monde entier.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad, tous les samedis à 17h. France Inter.
La différence.
15h et pratiquement 4 minutes sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Salut Daniel, c'est Jean-Louis de Putange dans l'Orne. Tout de suite, j'ai écouté ton émission, là, j'ai écouté le répondeur, et je ne sais pas si j'étais victime d'hallucination, mais en écoutant cette dame qui appelait à l'arrêt de la chasse au BHL, ben, j'ai cru reconnaître une ancienne candidate à la présidentielle il y a quelque temps. Là. Et je ne sais pas s'il y a d'autres auditeurs qui ont eu la même impression que moi, mais si la chasse au BHL se termine, je pense que la chasse au Daniel Mermet, elle va s'ouvrir là. Voilà, juste un petit clin d'œil comme ça, et puis bah, bonne continuation. Ciao.
Bonjour, je n'avais pas pu écouter l'émission qui vient de passer aujourd'hui sur le Honduras. Merci de nous avoir fait vivre ce moment de façon aussi forte. Mais pourrez-vous, au cours d'une prochaine émission, nous dire ce qui se passe dans ce pays actuellement? Est-ce que le peuple continue à lutter? Est-ce que M. Zelaya a pu revenir? Ou est-ce que c'est toujours les putschistes qui sont toujours au pouvoir? Merci beaucoup.
Salut Daniel, je m'étrangle de rage et d'impuissance. Je viens d'apprendre que la sécurité sociale, c'est-à-dire nous, va prendre en charge les malades qui ont été empoisonnés par le Mediator. Laboratoire Servier a été grassement subventionné déjà par la sécurité sociale, des centaines de millions me semble-t-il, et maintenant c'est encore nous qui allons prendre en charge les malades. Certes, il faut que ces malades soient pris en charge, mais pourquoi Servier n'est-il pas mis à contribution? Pollueur, non payeur dans notre belle République. Allez, salut.
Je viens de choper environ 4 secondes de journal de France 2, parce que je ne le regarde jamais et que quelqu'un me l'a mis devant le nez. Et ça a commencé par Marie Drucker qui dit « On savait que la canicule tuait, mais le froid, c'est nouveau. » Et elle se lance. Alors, j'ai pas écouté jusqu'à la fin parce que j'avais envie d'aller gerber. Mais voilà, c'est pour vous dire comment les élites des médias perçoivent la réalité des choses. Ben, bisous à tout le monde, à plus, ciao.
Daniel, c'est terrible. C'est terrible comment est-ce que les médias français peuvent se mettre en garde à vous, à la France-Afrique, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est impensable. Comment est-ce que nos journalistes, même France Inter compris, les médias, peuvent se mettre vraiment dans ces campagnes de manipulation et de désinformation de ce qui se passe là-bas à Abidjan. Incroyable. L'espoir, ils sont en train de tuer encore l'espoir de tous les Africains qui pensaient que l'Afrique pourrait se libérer. Quelle forme de journalisme? Garde à vous, vraiment, contre l'Afrique, sa cause, cette pseudo-forme d'information, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Servir Ouattara, ce n'est pas possible. Et la France-Afrique, merci Daniel, merci aux auditeurs. Comme on dit Nelson Mandela, si qu'il est l'Africa, c'est dommage pour l'Afrique.
Je m'appelle Karim, je suis de Côte d'Ivoire. J'ai entendu une intervention aujourd'hui, quelqu'un qui parlait de la Côte d'Ivoire et qui appelait les gens à aller voir un journal, je ne sais pas quoi, qui parlait de Laurent Gbagbo, de Ouattara, qui est un élève des États-Unis soutenu par la France et tout. Arrêtez de parler de certaines situations que vous ne connaissez pas. Arrêtez vraiment de parler des pays que vous ne connaissez pas. Vous pensez que nous, on a affaire à tu es républicain, tu es de gauche, tu es de droite. Ça ne nous intéresse pas ça en Afrique pour le moment. Vous pensez que si nous, en Côte d'Ivoire, on a le choix entre un socialiste qui recrute des mercenaires pour tuer les populations et un homme de droite qui parle de réconciliation, quel choix on va faire nous? Évidemment, on va choisir celui qui parle de paix. Donc arrêtez de nous faire chier avec vos histoires de gauche, droite, il est l'homme des États-Unis, il est l'homme de ci, il est l'homme de ça. il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Le peuple s'est prononcé à 54%. Aujourd'hui, nous, on veut la paix.
Bon, Mermet crache une fois de plus sa haine contre ceux qui n'acceptent pas le fascisme vert. Riposte laïque, ce ne sont pas des petits saints, hein, mais les islamistes et ceux qui les soutiennent, et ceux qui, d'une manière générale, refusent de constater ce qui pourtant crève les yeux, à savoir que l'islam est une saloperie, comme la plupart des religions, mais il se trouve que l'islam est un petit peu en émergence. Ceux qui font partie donc du camp des islamophiles, comme Mermet, eh bien ce sont des gens qui vont contribuer au niveau des élections de 2012 à permettre à la fille Le Pen d'arriver au second tour. Alors bravo, vous jouez parfaitement votre rôle, même si vous ne le comprenez pas. Et moi je le désole, je me désole de ça personnellement. Mais que voulez-vous? Quand on n'est pas intelligent, c'est comme ça.
Ah non, Bernard Cassène, c'est trop gros. Enlève ton masque. Je t'ai reconnu dans ton imitation du protecteur de la civilisation. C'est pas mal, mais c'est trop caricatural. Essaye encore, mais en plus finot, un petit peu plus finot, et peut-être que ça passera. Peut-être que ça passera. En tout cas, merci pour ces messages, chers AMG. Concernant le Honduras, très bonne question de cet auditeur. Que devient le Honduras? C'est assez facile de le savoir. On a des nouvelles qui nous parviennent malgré tout de ce pays dirigé d'une poigne de fer par Pepe Lobo. On sait que c'est pas tellement la fête pour tout le monde dans ce petit pays, surtout pour les opposants et surtout pour les journalistes qui osent s'opposer. Un certain nombre d'entre eux sont passés de vie à trépas et un certain nombre ont disparu. C'est pas la joie du tout au Honduras. Aujourd'hui, dans la basse j'y suis, retour sur une rencontre avec Franck Lepage. Franck Lepage est un homme de culture qui critique la culture telle qu'elle est dispensée et telle qu'elle s'installe, qu'elle s'est installée dans notre époque, dans notre esprit. Une culture de la distinction, une culture de la consommation, un moyen de se distinguer, de marcher sur la tête des autres, ou alors un moyen simplement, bon ben, de passer un moment, mais une culture qui n'est plus synonyme d'enjeu, une culture qui n'est pas émancipatrice. C'est ce qu'il a observé au cours de son long travail au sein même de la culture. Et c'est cet appareil-là qu'il critique joyeusement avec beaucoup d'efficacité. À l'époque, on avait diffusé cette émission la première fois le 16 juin et ça avait beaucoup intéressé les AMG que vous êtes. Voilà donc le sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la page si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour là-bas, ici c'est Jean-Louis de Bayonne. Cet appel pour informer les auditeurs de l'émission de ce qui est en train de se passer dans notre beau pays de France. Une militante pacifiste basque française d'un parti basque autorisé en France et interdit en Espagne risque 13 ans de prison pour participation à une organisation terroriste. Selon les termes du mandat d'arrêt demandé par Madrid et confirmé par les juges français, elle risque donc 13 ans de prison. Que reproche-t-on à cette jeune femme de 31 ans? Une activité politique pacifique dans un parti basque autorisé en France. C'est très grave ce qui se passe, d'autant plus que depuis plusieurs mois, un processus de paix est en cours et que ce sera sûrement par des gens comme Aurore Martin que la paix régnera sur le Pays Basque. Le gouvernement français doit annuler cette décision qui pourrait créer un dangereux précédent et permettre au gouvernement espagnol de demander la tête de plusieurs militants pacifistes français en règle en France. Aujourd'hui, Aurore Martin a choisi la clandestinité et se cache pour ne pas être extradée vers l'Espagne. Elle n'est pas belle, l'Europe?
Bonjour, là je suis Joël de la Nièvre. Je suis travailleur social depuis 1986, depuis quelques années. Il se trouve que j'accompagne des gens en grosses difficultés sociales et professionnelles. Quelle n'a pas été ma surprise d'être saisi il y a quelques jours par plusieurs bénéficiaires du RSA, qui se retrouvent dans le 92 et qui, semblerait-il, ont l'obligation, je dis bien l'obligation, de se soumettre à un examen de santé. C'est à creuser, parce qu'il me semble premièrement que c'est illégal, et deuxièmement, où se trouve le respect de la personne. Je pose une petite question comme ça. Bonne journée, au revoir.
Bonjour mon cher Daniel, c'est Madame Gorek Alexandra, la Bretagne, Vannes-le-Morbihan, fidèle auditrice de vous. D'abord je dois vous dire joyeux, joyeux Noël, et aussi tous mes meilleurs voeux, plein de bonnes choses pour le nouvel an. Vous êtes ma survie, je suis dans mon lit paralysé là, j'ai 85 ans, vous savez, j'ai 5 arrière-petits-enfants, je ne peux pas les serrer fort dans mon bras. Je veux mourir, Daniel, je veux plus vivre, je souffre de trop. Et puis non, je n'arrive plus à rien. Faut manger qu'une demi-tartine aujourd'hui. Pendant la guerre, maman nous donne une tartine à manger aujourd'hui. Eh ben, une demi-tartine. Ou alors se chauffer, pas manger. Manger, pas se chauffer. Au revoir, mon cher Daniel. C'est triste, la France. Tout est triste. Au revoir, mon cher Daniel. Au revoir, mille merci.
Voilà, je viens d'entendre sur France Inter des gens qui s'expriment malencontreusement en parlant des bénéficiaires des APL, des bénéficiaires du RSA et même des bénéficiaires du SMIC à 1000 euros par mois. Ils ont dit bénéficiaires de 1000 euros par mois. C'est quand même assez incroyable. Je n'ai jamais entendu que Madame Liliane Bettencourt était bénéficiaire des lois Sarkozy. Alors, il faudrait peut-être un peu de justice sociale. Si nous, les très très pauvres, nous bénéficions, elle, il faudrait qu'elle bénéficie aussi. Merci, au revoir.
Et alors je m'étais mis en tête d'interviewer quelques grands anciens avant qu'il ne soit trop tard. Et notamment j'avais retrouvé les traces d'une certaine mademoiselle Christiane Faure qui avait joué un rôle important en 1944. En créant la première direction de l'éducation populaire au sein du ministère de l'éducation nationale. Alors, je trouve son numéro, je l'appelle un jour comme ça, et alors je tombe sur une espèce de vieux bonhomme désagréable. Allô ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, voilà, je m'appelle Franck Lepage, et j'aurais voulu parler à mademoiselle Faure, s'il vous plaît, mademoiselle Christiane Faure.
Et qu'est-ce que vous lui voulez, mademoiselle Christiane Faure ?
Voilà, je dois faire un travail sur la notion d'éducation populaire, et il se trouve que mademoiselle Faure, en 1944...
L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu. Cela n'intéresse plus personne aujourd'hui. Au revoir. Clac.
J'y suis allé. J'ai sonné. La porte s'est ouverte. Et là, mesdames, messieurs, j'ai vu une dame vieille. Mais vieille, espèce de truc couché en deux sur une canne comme ça, vous voyez, qui m'a regardé par en dessous et qui m'a dit
« Alors, vous avez trouvé !»
Alors, tout ce que j'ai gagné à l'avoir appelé monsieur pendant 10 minutes au téléphone, c'est qu'elle a refusé que je l'enregistre. Elle a également refusé que je prenne des notes. Elle a accepté le principe d'une conversation face à face. Elle m'a prévenu qu'il n'y aurait pas de deuxième fois. C'est ce qui me reste de cette journée incroyable que je suis parti pour vous raconter ce soir.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis avec Antoine Chao et avec Franck Lepage pour une éducation populaire.
Flight number 2, arriving from
Voilà, alors on nous reproche souvent de faire des émissions trop critiques, trop politiques, parfois même avec des gros mots. Mais là, ça va être très bien parce que c'est une émission entièrement culturelle. Jusqu'à 16h sur France Inter, que de la culture, c'est-à-dire ce qui élève l'esprit, ce qui élève l'âme, ce qui nous rend meilleurs, plus beaux Et ça, on le doit à Franck Lepage, que nous recevons aujourd'hui dans Là-bas si j'y suis, et qui est un homme de culture, qui vient de la culture, et qui fait de la culture, et qui est content. Franck Lepage. Bonjour, bonjour, Franck Lepage.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
En quelques mots, bah oui, aujourd'hui j'habite en Bretagne et je suis dans la culture des poireaux, je cultive des poireaux et avant j'étais à Paris, j'étais dans la culture, tout court, puisqu'on a en France un truc qui s'appelle la culture. Voilà, la culture avec un grand Q, celle qui élève l'âme, hein, celle de l'art comptant pour rien, toutes ces belles choses-là, cette espèce de religion de la gauche, voilà. Et donc j'ai été un peu le porteur de valise de ce truc-là à un moment. J'étais prophète culturel, voilà, et puis je me suis fait virer, j'ai arrêté tout ça, et je me suis retrouvé en Bretagne. Et maintenant, j'essaie de cultiver des poireaux, c'est pas évident.
Alors, on va venir aux poireaux et à la culture des poireaux et à ce que vous faisiez auparavant, c'est-à-dire, vous l'expliquez dans votre spectacle, comment on va dire, spectacle ou conférence gesticulée?
Conférence gesticulée.
Alors, pour être très très précis, je pourrais dire que j'étais dans la culture des pauvres. Voilà. Si vous voulez, mon travail consistait à cultiver des pauvres. Et maintenant, je cultive des poireaux. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Le pauvre est une espèce résistante à la culture. Et donc, quand j'essayais de cultiver des pauvres, je me tapais bide sur bide. Maintenant, je suis dans la culture des poireaux, ça va beaucoup mieux. Et donc, c'est l'histoire que je vais un peu vous raconter. Je faisais ça dans les banlieues, hein. C'est là qu'ils sont essentiellement. Et donc, mon travail consistait, celui-là, à cultiver, c'est-à-dire, bon, grosso modo, à leur balancer du fumier culturel, vous voyez, sur la tête pour les faire pousser. Essentiellement sous forme d'art contemporain. Il y a énormément de fumier dans l'art contemporain, et donc ça pousse très bien. Et donc je leur balançais des charrettes de danse contemporaine, musique contemporaine, théâtre contemporain, etc. Avec l'idée que ça allait les faire pousser, vous voyez, et qu'ils allaient rattraper les riches. Et alors, on appelle ça en France, chez nous, la démocratisation culturelle, excusez-moi. Hein, et alors, il m'est arrivé un truc terrible, mesdames, messieurs, j'ai arrêté de croire à ça. J'ai arrêté de croire à la culture, enfin, je sais pas comment vous dire, j'ai arrêté de croire qu'en balançant du fumier sur la tête des pauvres, ils allaient combler l'écart avec les riches. Et alors, je ne souhaite ça à personne. Quand vous arrêtez de croire à la culture, vous retrouvez très seul.
Autrefois, donc, vous le dites dans votre conférence gesticulée, vous mettiez du fumier sur la tête des pauvres pour les faire pousser, voilà, pour les élever.
De l'engrais culturel, voilà.
C'est ça. Et vous en êtes revenu.
Oui, j'ai fini par comprendre que c'était un mensonge fondamental, enfin, que cette idée que les gens manquent de culture et que c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont dans les rapports sociaux, hein. S'ils sont pauvres, c'est de leur faute, ils n'ont qu'à se cultiver, ils vont devenir riches immédiatement. J'ai mis un certain temps à comprendre que c'était une arnaque, enfin, que ça marche pas comme ça du tout. Et donc, on leur balance beaucoup d'art contemporain. Il y a beaucoup de fumier dans l'art contemporain, donc ça pousse très bien. Voilà. Et donc si on balance dans les quartiers de la danse contemporaine, de la musique contemporaine, du théâtre contemporain, évidemment, ça va tout changer.
Je voudrais qu'on vienne sur l'histoire de ce mot culture, au moins à la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque ce mot a un certain sens qui est beaucoup plus proche de l'idée d'émancipation et de l'idée politique que ce qu'il est devenu par la suite.
Et tout ça à cause de qui, mesdames, messieurs? À cause de Christian Faure. En 1940, monsieur, j'étais jeune professeur de français au lycée de jeunes filles à Oran, en Algérie, lorsque l'État français a promulgué les lois portant statut des Juifs en France. Nous avons reçu une circulaire, monsieur, nous demandant d'identifier les élèves juifs afin de les expulser des établissements publics. Monsieur, des élèves juives à Oran, j'en avais quelques-unes. J'ai pleuré de rage. J'enseignais Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu. Monsieur, sachant les enseigner, nous aurions dû savoir les défendre. Et donc Christiane Faure me raconte que elle est la seule à s'offusquer et que ses collègues lui disent « Écoute, Christiane, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, on n'y peut rien. C'est une loi, c'est la guerre. Et puis, mets-la un peu en veilleux si tu veux pas d'ennuis. » Et alors, elle va résister, Christiane Faure. Elle va leur faire passer des cours en cachette le soir chez elle. Mais ça va se savoir. Et on va la menacer. On va la menacer de déportation. Mais l'Algérie est libérée très tôt. Et en 1942, le gouvernement provisoire de la République s'installe à Alger. Ils ont entendu parler d'elle. Ils lui proposent de rentrer dans le premier cabinet du premier ministère républicain de l'éducation nationale. Le directeur de cabinet s'appelle M. Jean Guéhenno, un philosophe, un intellectuel proche du Parti communiste, un type important. Alors ils mettent en place en 1944 un truc hallucinant, qu'on appelle la direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse. Et donc c'est Christiane Faure qui est chargée de mettre ça en place, et elle va recruter des gens de la culture populaire, des gens du cinéma, des gens de la radio, M. Pierre Schaeffer qui va créer Radio France plus tard, des gens du théâtre. Et ils vont être 18 à embarquer dans l'histoire, et elle va leur demander s'ils accepteraient de laisser tomber leur carrière professionnelle en quelque sorte, et de venir inventer les conditions d'une éducation politique des jeunes adultes en France. On est en 44. On vient d'ouvrir les portes d'Auschwitz.
Oui, je raconte une toute petite histoire de notre histoire, de ce que des historiens appelleraient un personnage secondaire, enfin bref, qui est celle de cette mademoiselle Christiane Faure, qui est par ailleurs la belle-sœur d'Albert Camus, des choses comme ça. C'est pas n'importe qui non plus, qui avec Jean Guéhenno, avec René Capitan, enfin à la Libération, qui se pose la question de transformer le ministère de l'Instruction publique en ministère de l'Éducation nationale, en partant du principe que avec Auschwitz, on sait désormais que c'est pas un problème de culture. On peut être extrêmement cultivé et un vrai fasciste.
On peut être très instruit,
très
nazi.
Oui, voilà, complètement. Et donc, si c'est pas un problème d'éducation et culture, c'est donc un problème d'éducation politique. Ça va durer très peu de temps, ça va durer 3 ans avant d'être torpillé, ce truc-là. Donc c'est rien, de 44 à 48, mais une espèce d'intention qui va rester, qui va pas mourir, qui va continuer à travailler, à emmerder le monde. Et donc ils vont mettre en place une direction de l'éducation populaire. Éducation populaire, Christiane Faure explique que dans son esprit, c'est de l'éducation politique, enfin c'est de la culture politique, d'accord ? C'est comment est-ce qu'on va sortir du fascisme, comment on va faire que ça n'arrive plus jamais, comment on va installer sérieusement et définitivement une démocratie. Bah, pour faire ça, il faut faire de la culture politique. Il faut que les gens acquièrent une culture politique. Ce que, par ailleurs, Condorcet avait déjà raconté il y a 2 siècles, mais enfin, on avait soigneusement laissé tomber cet aspect de
son... Développer ça, cette idée de Condorcet, Christiane Faure. Restons un petit peu là-dessus, parce que c'est l'essentiel, c'est la base de votre boulot, c'est la base de votre réflexion, c'est ce qui a fait que vous êtes un renégat de la mission qui était la vôtre auprès de ceux sur la tête desquels vous mettiez du fumier. C'est quand même important. Alors, remontons à Condorcet.
Au moment de la Révolution française, il s'agit de réaliser l'égalité, la vraie, vraiment, de la faire pour de vrai, hein. Pas l'égalité des chances, hein. Ça, c'est celle de Sarkozy, hein. L'égalité des chances, on est d'accord, ça veut dire l'inégalité, ok? C'est des astuces de langage à la con dont on souffre tous actuellement. Et donc, il faut faire vraiment de l'égalité. Alors, il y a plein de plans d'éducation. Il n'y a pas que celui de Condorcet, hein. Je raconte dans une autre conférence, je parle de Le Pelletier de Saint-Fargeau, etc. Mais bref, grosso modo, Condorcet comprend un truc. C'est qu'il faut faire l'instruction publique, là, des enfants, mais que si on fait que ça, on va simplement reproduire une société dans laquelle les inégalités seront désormais justifiées par les savoirs. C'est-à-dire, si t'es pauvre, c'est parce que t'es pas assez instruit, c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à bouger à l'école. C'est un mensonge incroyable. Enfin, Bourdieu a expliqué dès 1962 que c'était complètement aberrant, ce truc-là. Enfin, que l'école ne change rien aux inégalités, l'école les reproduit, elle les légitime. Et donc, Condorcet dit, il faut faire aussi l'éducation politique des adultes. D'accord ? Pas des enfants, ok, on va pas faire de l'éducation politique des enfants, tout le monde peut comprendre pourquoi. Mais une fois que c'est plus des enfants, on peut faire l'éducation politique, c'est-à-dire expliquer la démocratie, la République. La démocratie, c'est un rapport de force, hein, c'est pas un État, on n'est jamais en démocratie, jamais. Hein, on est toujours plus ou moins en démocratie. Et donc Condorcet dit, il appelle ça l'éducation populaire. Et il faut une Shoah, c'est ce que je raconte, il faut 6 millions de juifs partis dans les camps pour qu'on admette en 44 cette idée toute simple, toute bête, que la République a une responsabilité de mettre en place l'éducation politique, l'éducation démocratique des jeunes adultes. Alors, ils vont mettre ça en place en 44, ça va s'appeler une direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse, sachant qu'à l'époque, jeune, ça veut dire adulte, ça veut pas dire un adolescent.
Ans, oui, ben oui. Ça, jeune, oui.
Ben oui, aujourd'hui, un jeune, c'est un mec qui a 14 ans, une casquette à l'envers, des lacets défaits dans une banlieue. C'est ça, un jeune, dans le discours politique. Mmh. Mais pas en 44, ok? Bon. Et donc, je raconte, pour aller vite, je raconte que cette idée absolument magnifique, cette idée révolutionnaire, va être assassinée 2 fois. Une première fois, en 48, sous la forme d'une direction générale de la jeunesse et des sports, hein, donc là, c'est très clair. Hein, on va mettre la jeunesse avec les sports, ok? Ils feront pas d'éducation politique, ok? Ils feront du kayak. Bon. Et puis une deuxième mort, qui est beaucoup plus embêtante, celle-là, qui est le ministère de la Culture. qui arrive.
Inventé avec... en 59 pour Malraux.
Alors c'est plus compliqué que ça, mais on n'a pas le temps, on va pas ergoter ici. Mais effectivement, De Gaulle qui veut confier un ministère à Malraux, Debré va demander à Malraux ce qu'il veut être, et Malraux ne demande pas du tout à être ministre de la Culture, pas du tout. Il faut arrêter de dire que Malraux a inventé le ministère de la Culture, il l'a pas pensé, il y a même pas demandé. Okay, Malraux veut être ministre de la Jeunesse, ensuite il veut être ministre de la Recherche, après il veut être ministre de la Télévision, après comme Debré refuse, il boude, et finalement on va lui proposer, il y a une idée qui traîne un peu comme ça, c'est l'idée de ministère de la Culture. Mais c'est très très compliqué en 58, ministère de la Culture, parce qu'il y a eu que trois ministères de la Culture dans le monde à ce moment-là. C'est un chez Hitler, un chez Mussolini et un chez Staline.
Ouais.
Et la vraie difficulté, c'est est-ce qu'il peut y avoir un ministère de la Culture dans une démocratie ? Alors, les gens, les instructeurs d'éducation populaire de Mademoiselle Faure, puisqu'elle va quand même commencer son travail, elle va recruter des gens, ils vont commencer à se mettre au travail, etc. Eux se disent à ce moment-là, il doit y avoir moyen d'avoir un ministère de la Culture dans une démocratie, à condition que ça soit un ministère qui travaille la question démocratique en permanence. Ça serait donc un ministère dans lequel il y aurait le mouvement social, le féminisme, le syndicalisme, la politique, enfin bref, la culture, tu vois. D'accord. Et ils pensent à Camus pour être leur ministre. Et Camus, c'est vraiment pas Malraux, hein. C'est rien à voir. Bon, on va récupérer Malraux. Peu importe, on va pas faire une émission sur Malraux. Ça aura à peu près autant d'intérêt que de consacrer une émission à Jacques Lang. Enfin, bon. Mais va se mettre, parce que c'est pas Malraux qui a fait ce ministère. Enfin, je veux dire, c'est une administration. Malraux est incapable de bâtir une administration. Puis, il a vraiment autre chose à faire. Enfin, bon. Il va apporter sa figure, sa légende, d'accord, à la construction de ce ministère. Mais c'est pas lui qui va le bâtir.
Et si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il y regarde ce qui sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Et pour le reste, mieux vaut n'en parler qu'à d'autres moments. Il y a aussi les entr'actes.
Mais ce que vous dites, c'est qu'à partir de Malraux, le mot culture va devenir synonyme d'art.
Ça, c'est la grande, grande catastrophe intellectuelle qui nous arrive. C'est une catastrophe intellectuelle majeure.
On va évacuer du mot culture.
La culture.
La culture.
On va virer la culture.
C'est-à-dire la vie sociale, c'est-à-dire, politique.
C'est-à-dire le combat. C'est-à-dire comment vous et moi, on échange de l'information sur la domination, sur comment on s'en sort, d'accord? C'est à la culture, quoi. Je veux dire, la façon de survivre dans une société capitaliste, le syndicalisme, la lutte des classes.
Alors, on a trouvé un mot pour ça, c'est le mot socio-culturel.
Absolument.
Il y a donc, la culture et le socio-culturel.
Voilà. On a une obscénité en France, et le ministère de la Culture est là pour veiller à ce qu'elle existe, qui est une séparation d'une inimaginable violence entre ce qui est culturel et ce qui n'est que social ou socio-culturel. Alors, si vous allez au ministère de la Culture dire je voudrais faire un travail avec des chômeurs sur la vie des gens, etc., enfin, on va vous regarder comme un cancre là. Vous allez, écoutez, ça c'est pas de la culture, soyez raisonnable. Ça c'est du socio-culturel, c'est de la gîte propre. Enfin, c'est un truc, ça va. Et donc, la culture, c'est le tas de fringues de Boltanski au Grand Palais. Voilà. Ça c'est de la culture.
Oui. Alors, quand vous dites ça, si vous dites c'est le tas de fringues de Boltanski au Grand Palais, on dit bon, ce gars-là est un poujadiste.
Tout à fait.
Il va au concert Absolument. De Johnny. Voilà. C'est un crétin qui aime Mireille Mathieu et qui se gave de Jean-Pierre Pernaud le midi en boucle.
Oui, parce que il ne peut plus y avoir de critique de gauche de la culture, puisque la gauche s'est durablement piégée dans la question culturelle. La culture, c'est ce qui sert à tuer la gauche. Voilà. Je vais le dire simplement, on va gagner du temps. La culture, ça sert à, le culturel, ça sert à détruire du politique. Alain Brossa est un auteur qui a écrit ça mille fois mieux que moi, un livre qui s'appelle Le Grand Dégoût Culturel. En gros, quand c'est culturel, c'est que ça n'est plus politique. Bon, c'est ça, et c'est pour ça que je parle de catastrophe, parce que la gauche s'est foutue là-dedans. Moi, le premier, hein, c'était mon métier. La gauche s'est foutue là-dedans, mais alors, elle a mis les deux pieds dedans, si on peut dire. Et alors maintenant, elle n'en sortira pas, je le crois pas. Je crois pas. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous dites culture à quelqu'un, il n'entend plus que art. C'est tout ce qu'il entend. C'est-à-dire théâtre, musique, danse, voilà. Et en plus, dans la version la plus grotesque, la plus décadente, la plus sinistre, qui est l'art contemporain, qui est un des courants politiques de l'art, qui est vraiment bon.
Vous dites dans votre, alors on ne peut pas dire spectacle, mais conférence gesticulée, encore une fois, conférence gesticulée, ça baigne dans une religiosité contemplative, une béatitude, on est admiratif de telle et telle chose, sans donner d'explication.
On est dans l'ordre du sacré. On est est dans l'ordre du sacré. Voilà. Vous ne pouvez pas critiquer. Et c'est ça qui a changé au tournant des années 60 avec l'arrivée de ce ministère. C'est-à-dire qu'avant, c'était du théâtre, et c'était que du théâtre. Ou de la peinture, c'était que de la peinture. Donc, on pouvait dire, on pouvait critiquer, on pouvait dire c'est beau, c'est moche, c'est bien. Maintenant, on ne peut plus. C'est impossible. Si vous dites de n'importe quel, je sais pas, spectacle de théâtre un peu public, un peu, vous voyez, subventionné, etc., si vous dites c'est nul, immédiatement vous êtes taxé d'être un type dangereux, un mec de droite, enfin, et donc il ne peut plus y avoir de critique de gauche de la culture, c'est pas possible. Toute critique de la culture est une culture de droite. Et ben le capitalisme a marqué une victoire flamboyante. Et alors comme par hasard, alors c'est là où il faut faire un peu d'histoire, comme par hasard, quand on gratte un peu sur ces questions-là, la CIA, encore elle, dès les années 50, va subventionner massivement les gouvernements européens pour financer des formes d'art qui ne désignent plus aucun rapport social, c'est-à-dire de l'art abstrait, de l'art cucu, rigolo, bébête, d'accord, en partant du principe que de l'art qui parle vraiment de la vie des gens, ce n'est plus de l'art, c'est du réalisme socialiste.
Pas seulement des arts bébêtes subventionnés par la CIA, mais on s'est aperçu récemment que des artistes, des grands artistes comme Schoenberg ou Stravinsky étaient financés de cette façon par des fonds provenant des États-Unis via la CIA, via des fondations européennes, et ces artistes, Schoenberg, Dieu sait si c'est une personnalité éminente, et Stravinsky encore plus peut-être, savaient d'où venaient les fonds qui leur permettaient de créer leurs œuvres.
Le drame, c'est que la gauche n'a pas changé ça. Que la droite mette ça en place. De Gaulle, Malraux, sa bande, enfin, je le comprends, ça. Je veux dire, que la droite dise que les gens sont dans la situation sociale où ils sont parce qu'ils manquent de culture. Ok. Ça, c'est une idée de droite. C'est simple. Mais que la gauche pense ça. Parce que va faire Jack Lang quand il arrive? C'est ça qui est hallucinant. Il va faire plus fort que Malraux. Il va propulser la figure de l'artiste à des hauteurs jusque-là inconnues. Je veux dire, la gauche arrivant au pouvoir, elle aurait dû remettre en place une politique culturelle de gauche. Je sais ce que c'est qu'une politique culturelle de gauche. C'est une politique qui abolit la séparation entre culturel et socioculturel. C'est une politique qui, effectivement, fait re-rentrer de nouveau dans les maisons de la culture ou les établissements culturels l'action sociale, le syndicalisme, le féminisme, les gens, la vie, enfin bref, c'est ça la culture. L'école, enfin la réflexion sur l'école. Alors pas du tout. Pas du tout, la gauche va faire encore plus fort que Malraux. Et donc aujourd'hui, on a cette situation absolument terrible, enfin du point de vue intellectuel, c'est que culture, ça veut dire beaux-arts. Voilà.
Et les acteurs de la culture dont vous étiez sont sûrs de faire le bien, puisqu'ils conduisent le peuple vers le beau.
C'est ça.
Apportent la culture à tous, comme les missionnaires autrefois allaient dans les colonies apporter la religion, la Bible, l'enseignement, etc. C'est un peu les mêmes l'esprit missionnaire qui prévaut toujours aujourd'hui et qui est vu comme ce qu'on peut faire de mieux.
Oui, et ça détourne les classes moyennes de faire alliance avec les classes populaires. La culture, ça sert à ça. Enfin, ça sert à convaincre les classes moyennes de s'allier avec la bourgeoisie. Enfin, si on va admirer les idioties de Jeff Koons à Versailles, c'est donc qu'on est capable de comprendre cette démarche, etc., etc.
C'est une démarche de distinction.
Oui. Oui. Je raconte cette anecdote des amis à moi qui étaient animatrices dans une association d'éducation populaire, emmènent des jeunes de banlieue à une foire d'art contemporain, et là, il y a une œuvre d'un artiste où il a fait carreler un pavillon entier, puis il a ensuite démoli à coup de marteau tout le carrelage, et donc l'œuvre, c'est ça. Donc c'est des gravats par terre, et donc on traverse ce pavillon, on marche sur des gravats. Et alors les jeunes, évidemment, disent « Madame, je peux faire pareil, si on me donne des subventions. » Je peux casser des abribus, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la réponse de cette animatrice. Soit elle aurait dû répondre au nom de l'éducation populaire, elle aurait dû répondre « Oui, bien sûr que tu peux faire pareil, mais tu ne seras jamais légitimé comme artiste. Jamais François Pinault ne mettra un centime sur ta tête si tu fais ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer comment marche la légitimation des gens hein, à qui on... Voilà. Comment on fabrique un Boltanski, comment, etc. » Au lieu de lui dire ça, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit « C'est dommage que tu dises ça, parce que ça prouve que tu n'es pas capable de comprendre la démarche de cet artiste. Tu es un sous-homme. »
C'est ça, c'est-à-dire l'artiste, un surhomme, un Prométhée.
Quelqu'un qui est touché par une grâce mystérieuse et inexplicable qu'on appelle l'art, et dont toi, moi, ici, personne, aucun d'entre nous ne sera jamais atteint.
Alors, à ça, qui encore une fois relève de l'idéologie dominante, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont absolument froissés, sinon choqués par ce que vous êtes en train de dire, vous opposez la culture de tous et par tous.
Oui,
alors
donc,
magnifique formule, voilà, de tous et par tous. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que tout le monde a une culture? Est-ce que tout le monde a quelque chose à dire? Est-ce que tout le monde, le commun des mortels, est, a des choses aussi indispensables que
et
ça?
C'est ce que vous faites quotidiennement à la Basse J'y suis, ou alors j'ai pas bien compris ce que c'est qu'un repère de la Basse J'y suis. ce qu'on a proposé, donc moi j'ai fait une conférence gesticulée, puis j'en ai fait une deuxième sur l'école, ensuite avec mes amis, puisqu'on est dans un collectif qui s'appelle une coopérative d'éducation populaire. On a créé une coopérative d'éducation populaire, on est 7-8, ça s'appelle le pavé, et donc on s'est mis à en faire d'autres. C'est-à-dire qu'on
comme par hasard, ils choisissent des noms.
Ah bah, c'est la référence anti-sarkozyste universelle. À partir du moment où Sarkozy a désigné mai 68 comme l'ennemi, et il a eu raison, mai 68, la guerre de 68, ça ne pète pas seulement en France, ça c'est ce que nous raconte Serge Julie à Libération. 68, ça pète dans une immense partie du monde, c'est une des plus importantes dernières remises en cause du système capitaliste. Ça pète au Mexique, aux États-Unis, au Japon, il y a des morts, hein. Ça pète dans une grande partie du monde capitaliste. On veut nous faire croire que c'est un petit chahut d'étudiants en France, d'accord? Bon, c'est dommage que Ben Saïd soit plus là pour nous remettre les pendules à l'heure.
Oui.
Et donc oui, ça marche. On a invité, donc avec le pavé, on a invité d'autres gens à faire pareil. Écoutez, oui. Vous êtes assistante sociale, vous avez 25 ans d'ancienneté, est-ce que ça vous intéresserait, plutôt que de partir à la retraite cultiver des bégonias, de monter sur scène et d'expliquer, de partager avec des gens ce que vous avez compris pendant 25 ans de ce que c'est que les politiques d'action sociale dans ce pays, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que l'horreur du RSA, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, des agents d'une mission locale pour l'emploi, d'accord, qui savent quasiment tous qu'ils n'ont jamais inséré personne d'autre qu'eux-mêmes, d'accord, qui font autre chose. Mais qui sont obligés de faire ça, c'est leur métier, ils font de l'insertion. Mais en même temps, ils ont un savoir politique là-dessus, qu'ils ne peuvent jamais exprimer, jamais, ni dans leur syndicat pour des raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir, ni dans... Il n'y a pas de procédure pour que les gens témoignent de la façon dont ils vivent concrètement la domination. Et ben voilà, vous imaginez, vous dites, voilà, vous êtes agent d'une mission locale, est-ce que vous voulez monter sur scène et raconter, sous une forme un petit peu mise en forme, en respectant un peu la convention spectaculaire, un minimum, hein, on va pas en faire trop, il s'agit pas de faire une œuvre théâtrale, il s'agit de dire des choses. Et donc, on a lancé une invitation dernièrement et on a été débordés pour répondre à votre question. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont arrivés en masse en disant, moi je veux raconter.
Quel par exemple?
J'ai une instite qui veut plus être instite, qui devient folle avec ça. Des experts d'un cabinet d'expertise qui sont au cœur de l'exploitation dans l'entreprise. Des travailleurs sociaux, des gens qui sont dans les quartiers à faire du développement durable, qui disent, moi j'en peux plus, je veux expliquer pourquoi c'est un mensonge. Enfin voilà.
Alors ils montent sur scène, vous les aidez un peu, non? Comment
tout
ça se passe?
Un petit peu, oui. Ben en fait, on va lui demander, on va lui proposer de fabriquer un Scooby-Doo avec 2-3 fils. Un des fils du Scooby-Doo, c'est sa vie à lui, c'est-à-dire son autobiographie. Comment il est arrivé là, d'où ça vient, par quoi il est passé. Un autre fil du Scooby-Doo, c'est qu'est-ce qu'il a compris politiquement de son expérience dans son métier. Un troisième fil, c'est qu'est-ce qu'il a lu sur la question. Parce que les conférences gesticulées sont aussi des occasions de vulgariser de la pensée. Par exemple, celle qu'on fait sur le travail. On parle beaucoup de Bernard Friot, qui est un type qu'il faudrait que vous invitiez un jour, qui est un des économistes de gauche décent. Ou quand on fait une conférence sur le management, et la démarche qualité, on va chercher du savoir froid qu'on va mélanger avec du savoir chaud.
Oh là, c'est quoi ça?
C'est très facile. Un savoir froid et un savoir chaud, ça donne pas un savoir tiède, ça donne un orage. Hein. Quand on fait du parapente, on sait ça. Hein.
C'est ça. Alors, ça y est, il est dans son parapente. Une partie de vos spectacles évoque le parapente, parce que vous faites du parapente, et c'est les métaphores que vous utilisez tout au long du spectacle, enfin de la conférence gesticulée.
J'ai trouvé cette métaphore amusante, de dire que quand on rentre dans une bulle thermique en parapente et qu'on a un gars qui est entré au-dessus de nous, d'accord, donc il est au-dessus de nous, d'accord, dans les rapports sociaux, si on compare l'air chaud à la culture, hein, ce qui permet de s'élever en société, on s'aperçoit que les deux mecs ne se rattrapent jamais, c'est-à-dire qu'ils montent à la même hauteur, d'accord. Et donc le mensonge de la démocratisation culturelle, c'est de faire croire qu'en donnant de la culture aux pauvres, ils vont rattraper les riches, en faisant semblant de pas savoir que les riches se cultivent aussi pendant ce temps-là et qu'ils se cultivent même plus vite et que la culture, ça sert à accentuer l'écart et pas à le réduire, sauf pour 1%. Voilà. Le fameux 1% qui rentre à Sciences Po et qui vient des banlieues, qui en sort pas d'ailleurs, il fait que rentrer. Hein. Bon. Et donc voilà. Et donc la métaphore du parapente, c'était celle-là.
L'idée du parapente, c'est pas de descendre, hein, c'est de monter. Hein. Quand vous descendez en parapente, vous faites pouf. Alors il faut plier le truc, faire du stop. Enfin c'est nul. La journée est ratée. Non, l'idée du parapente, c'est de monter. Ça. Et pour ça, on attrape des bulles thermiques, des espèces de grosses bulles d'air chaud qui montent. Vous avez un champ d'herbe, vous voyez, avec la chlorophylle qui absorbe le rayonnement solaire, c'est la photosynthèse. Et puis vous avez un champ de blé qui n'absorbe rien du tout, donc vous avez une espèce de grosse bulle d'air chaud qui se forme au-dessus du champ de blé. C'est une bulle de 3-4 hectares, hein, vous voyez la gueule de la bulle. Hein. Et puis vous avez de l'air froid, une bulle d'air froid qui se forme là. Et alors l'air chaud et l'air froid ne se mélangent pas, c'est une propriété de l'air, ça fait pas de l'air tiède, ça fait de l'orage. Et donc au bout d'un moment, si vous voyez, cette gigantesque bulle visqueuse d'air chaud, l'air froid va rentrer en dessous, je vous explique pas pourquoi parce qu'on n'a pas le temps, et elle va décrocher la bulle d'air chaud, vous me suivez? Alors la bulle d'air chaud va se mettre à monter, genre 7-8 mètres secondes, vous voyez, pousse, et elle va monter jusqu'au plafond, et là elle va faire un mouton. Donc maintenant, quand vous verrez en été un ciel bleu avec un mouton, vous saurez que c'est la mort d'une bulle. C'est joli. Et donc, en parapente, on essaie de rentrer dans des bulles comme ça. Vous voyez, on cherche les bulles. Alors, vous avez deux, trois combines. Hein. Vous regardez champ d'herbe, champ de blé. Vous regardez les oiseaux. Et alors, j'étais rentré dans une bulle d'air chaud un jour. J'étais rentré en bas de la bulle. Vous voyez. Et alors, il y avait un type qui était entré en haut de la bulle. Vous voyez. Alors, vous imaginez, moi c'est le pauvre et lui c'est le riche. D'accord. Alors vous imaginez que l'air chaud, c'est la culture, hein. Alors attention, regardez bien. Hop. C'était pas con, hein, au début l'idée. On va balancer de la culture aux pauvres, ils vont rattraper les riches. Oui. Le riche se cultive aussi.
Au pays de l'égalité, écoute ça. Une classe sociale de souillons qui met tout son dévolu dans les études pour que son statut d'exclu évolue. Mais vu qu'il est peu possible qu'une masse entière soit promue, plus elle monte vers la culture, plus la culture s'échappe au-dessus. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes. Et il faut qu'il se transforme et reste privilégié.
Au pays de l'égalité.
T'as beau aller au musée et jeter ton dévolu sur un artiste reconnu, il deviendra révolu. Ringardisé du seul fait que t'y as porté la vue, toi le gueule individu, si commun sans plus-value. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes. Et il faut qu'il se transforme et reste privilégié. L'école est le premier lieu où l'égalité fait feu. Mettre au même niveau les gueux et les tenanciers des lieux. Mais les codes restent mystérieux pour les enfants insoucieux qui n'ont pas même parents que ceux de la FCPE. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes. Et il faut qu'il se transforme et reste privilégié. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes. Et il faut qu'il se transforme et reste privilégié.
Revenons à Franck Lepage. Vous assurez que n'importe qui a envie de dire quelque chose sur sa vie, sur son expérience, sur ce qu'il a appris, peut monter sur une scène sans grands apprêts, sans grands atours, sans grands éclairages et sans grande mise en scène, raconter, partager son expérience avec un public.
Oui, mais on fait pas que le dire, on le prouve. Là, y a une conférence gesticulée Inculture numéro 6 avec 6 personnes qui viennent du Finistère, de Plourin-les-Morlaix, qui sont des gens qui vont raconter leurs souvenirs d'école, la façon dont ils ont été orientés, hein, t'es nul en maths, tu feras couture, et dont l'école a déterminé un certain nombre de choses dans leur vie. Bon voilà, et alors ça donne un truc. Alors est-ce que c'est un spectacle, mon Dieu, je suis pas critique de théâtre, et puis je dirais je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que les gens sont absolument bouleversés dans la salle, enfin je dirais, parce qu'il y a transmission, il y a partage d'une émotion politique, pas seulement je raconte ma vie, si tu veux, mais voilà ce que j'ai compris de ce qu'on m'a fait. Voilà la rencontre d'un savoir chaud, d'un savoir froid. Le savoir froid, c'est le savoir universitaire, c'est un savoir passionnant, bien fait, par exemple celui de Boltanski. Boltanski écrit, théorise. Moi, c'est le savoir chaud. Moi, j'ai vécu le projet, d'accord ? Moi, je me suis prostitué pendant 15 ans pour obtenir des sous sur des logiques de projet où je montais des projets bidons qui avaient jamais lieu parce qu'il fallait récupérer l'argent, d'accord ? Et les gens que j'avais en face de moi le savaient, ok ? C'est ça. Donc ça, c'est un savoir chaud. Et ben, quand le savoir chaud rencontre le savoir froid, on a la révolution. C'est Boltanski qui le dit. C'est-à-dire quand les intellectuels et les acteurs sociaux ne sont plus coupés les uns des autres, ça pète. Donc moi, nous serons fabriqués à la SCOP, ce qu'on essaie de faire, hein, c'est de fabriquer du temps de cerveau humain disponible pour la révolution. Voilà, on fait rien d'autre. Mmh. Et alors, évidemment, ça résonne pas mal avec la salle.
Oui, moi, j'ai vu des extraits de votre spectacle, enfin, de votre conférence à vous. C'est quand même très malin. Vous êtes un très bon comédien. Il y a des, on rigole, on se marre. Les dialogues sont, c'est faussement improvisé. Enfin, il y a des improvisations.
Mais ça marche avec tout le monde. Enfin, tout, il y a pas que la mienne. Moi, je suis très cabotin, je suis très déconneur. Bon, voilà. Mais enfin, toutes celles qu'on a faites, il n'y en a pas une seule où on s'est planté, pas une seule. Et venez voir celles avec des gens qui s'extériorisent comme ça beaucoup moins que moi, elles sont plus fortes que la mienne. Celles qu'on fait sur l'engagement qui s'appelle Inculture 3, puisqu'on s'est amusé à leur donner des numéros d'ordre, mais hein, je sais pas jusqu'où ça va aller, elle est plus puissante que celle que moi je fais tout seul. Et ça, c'est le problème du one-man show. Bon, moi, je fais une espèce d'exploit, voilà, je parle pendant 3 heures, là, les gens disent, oh là là, comment il fait, mais bon, voilà.
Il y a du monde à la fin, toujours, un peu dans la...
Mais alors, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'au début, on m'avait dit, dépasse pas 1 heure. Hein. J'ai dit, mais je peux pas abattre le capitalisme en 1 heure. J'ai fait le calcul, il me faut 72 heures. Bon, j'en suis à 3, on va voir.
Mademoiselle, je voulais vous remercier de m'avoir reçu et de m'avoir raconté cette histoire. Je voulais vous demander pardon de vous avoir appelé monsieur parce que j'aurais préféré que vous me laissiez vous enregistrer. Et puis je voulais vous dire que je crois que vous vous êtes trompé. Quand vous m'avez dit l'éducation populaire, monsieur, ça n'intéresse plus personne. Écoutez, regardez, mademoiselle, ils sont là, ils sont restés jusqu'au bout. Mademoiselle, vous m'avez raconté une étrange histoire. Ce jour-là, vous m'avez raconté que vous étiez allé dans le désert pour lire un livre à des Arabes et que vous aviez fait 200 kilomètres pour lire Le vieil homme et la mer. Et moi, je vous ai dit, mais quelle drôle d'idée, pourquoi vous avez fait ça? Et vous m'avez regardé avec un air tellement triste, mademoiselle, tellement triste. Vous m'avez dit, mais monsieur, l'ardeur, ça compte, non? Ça ne compte pas? L'ardeur? J'ai trouvé la phrase curieuse, mademoiselle, et puis j'y réfléchis depuis. Et je voudrais vous dire, je crois que vous aviez raison. L'ardeur, ça compte. Mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire.
Merci. C'est un des moments que je préfère dans le spectacle. J'ai 3 choses à vous dire encore, ça s'arrête jamais le truc. Parce qu'on a, quand je dis on, c'est qu'on a créé une SCOP d'éducation populaire, une société coopérative de production, ils ont enlevé ouvrier, c'est un mot qu'on a perdu. Et donc, on a créé une SCOP d'éducation populaire, on est 6 et on fait tourner ce spectacle, mais on fait d'autres choses.
Alors résumons-nous, vous avez cette SCOP, Le Pavé,
ouais.
Vous êtes combien là-dedans?
On est 8.
8 qui sont quoi? Qui ont la même histoire que vous?
Non, quasiment. Ce sont tous des gens qui viennent du travail social, du travail socioculturel. Il y a des animateurs, il y a des directeurs de maisons de jeunes, il y a des gens qui ont travaillé comme moi.
Qui sont tous en rupture?
Ils sont tous en rupture.
Des renégats.
Ouais, c'est ça. C'est plus exactement des gens qui, dans leur métier, dans leur profession, s'aperçoivent qu'ils ne pouvaient pas faire ce qui leur semblait légitime de faire.
c'est-à-dire de l'éducation populaire et non pas des dispositifs d'insertion. De l'éducation politique, c'est-à-dire parler du capitalisme, de la domination, expliquer aux jeunes comment ça se passe, expliquer aux gens pourquoi ils sont dans la merde et qu'ils n'ont pas de boulot, et non pas leur faire croire que si ils se cultivaient, ils en auraient. Et donc, comme ça n'est pas possible dans ce qui est actuellement le travail social, le mouvement associatif, qui est totalement aliéné dans des logiques de subventionnement par projet, hein, parce que le grand ennemi, notre ennemi commun, c'est le mot « projet ». C'est lui qui nous tue. C'est lui dont il va falloir se débarrasser. Hein, on l'avait pas il y a 20 ans, il va falloir le mettre à la poubelle, ce truc-là.
Pourquoi une telle adversité devant un mot aussi...
Mais parce que ce mot est tellement incroyablement positif qu'on ne peut pas se défendre contre lui. Je veux dire, ça, c'est tout le travail qu'a fait Boltanski. Alors, cette fois-ci, Luc Boltanski, hein, pas...
Le sociologue.
Oui, pas l'autre.
Le collègue
Luc
de Boltanski
et Eve Schiappello, qui ont fait un travail remarquable dans un livre qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme, dans lequel ils montrent que dans les années 60, le maître mot du management, c'est le mot hiérarchie, et que petit à petit, on va dégager ça. Et que maintenant, le maître mot, c'est projet. Le projet, c'est ce qui tue le désir. Comprenez le truc? N'importe quelle femme est capable de faire la différence entre un homme qui a un désir d'elle et un homme qui a un projet sur elle. D'accord? Le projet, c'est je définis toutes les étapes de ce que j'ai envie de faire, je sais exactement comment sera l'arrivée, donc j'ai plus envie de le faire. Alors, on s'est créé en SCOP. Alors, une SCOP, c'est une société coopérative. Alors, on a perdu deux mots.
Ouvrière.
Non, c'est fini, c'est perdu, ça.
Ah bon?
Ça a changé. C'était une société coopérative ouvrière de production. C'est un modèle du 19e siècle où des ouvriers décident de créer leur propre entreprise. Bon. Alors, c'est devenu... Alors, on a perdu le mot ouvrier. Et on vient de perdre le mot production. Donc maintenant, c'est une société coopérative participative. Donc langue de bois extraordinaire. Oui, les SCOP se mettent dans l'enfer du management elles-mêmes. Enfin, c'est prodigieux. Et alors, on vend des prestations. C'est-à-dire qu'en fait, nos activités, c'est du conseil aux collectivités locales. C'est-à-dire s'il y a des mairies qui ont vraiment envie de jouer à la participation. Vraiment, hein. Ok. Rencontrons-nous, on en discute. Parce que toutes les communes aujourd'hui sont obligées de faire de la participation des habitants. Hein, ça, c'est l'idéologie dominante, on appelle ça la gouvernance. Hein, ça consiste à faire croire aux gens, mais comme dans le management, c'est pareil. Faire croire aux gens qui sont associés aux décisions. Il n'y a absolument pas l'ombre du début d'une participation dans aucune commune d'Europe. Il y a des chercheurs, d'Onzelot, ont travaillé là-dessus. Il y a des formes d'associations sympathiques, gentilles, il y a des conseils de quartier. Bon, mais il n'y a pas de participation vraiment. Nous, on dit la participation, si on en faisait vraiment, ça donnerait quoi? Alors, vous allez rire, mais on a des communes qui acceptent le truc. Chez les élus, il n'y a pas que des renégats. Enfin, je veux dire, chez les élus, il y a des gens qui se posent sincèrement la question de faire des trucs bien avec les gens, quoi. Enfin bon. Et donc, on travaille avec eux. On fait de la formation continue, qu'on appelle de la déformation continue, évidemment. C'est-à-dire, on propose à des gens qui travaillent, je sais pas où, dans des dispositifs divers et variés, de venir travailler leur envie politique. Et puis, on fait des petites conférences gesticulées, oui. On fait aussi ça parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une espèce d'efficacité politique à ça. J'imagine qu'on ressemble par la bande à tout un tas de formes d'interventions qui sont des interventions culturelles avec un petit C, pas avec un grand Q. Qui consiste simplement à faire des choses avec les gens à partir de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont compris. L'idée de gauche de la culture, c'est pas de dire que les gens manquent de culture, c'est de dire que les gens sont pleins de culture, qu'ils ont trop de culture. Et qu'ils ont notamment trop de culture par rapport à l'organisation du travail. C'est-à-dire que n'importe quelle personne sait qu'elle en sait plus, grâce à l'école d'ailleurs, qu'elle en sait plus que ce qu'on lui laisse faire dans l'organisation du travail.
C'est ça.
Mais ça, on touche pas. Premier des droits de l'homme, hein, le droit de propriété privée des grands moyens de production. Hein. Monsieur Michelin, l'année de ses bénéfices records, a le droit de licencier des milliers de personnes. On peut pas l'empêcher. Donc là, il y a un problème compliqué.
Je voudrais qu'on parle un peu de la langue de bois aussi. Il y a plein de thèmes que vous abordez dans ces conférences. Mais je voudrais qu'on parle un peu de la langue de bois. On a parlé du mot projet, là, que vous débusquez.
Pour aller vite, Orwell a compris un truc absolument fondamental. Orwell, quand il écrit 1984, il comprend que pour transformer un pays en pays fasciste, c'est pas la peine de faire débouler des armées et des bruits de bottes, il suffit de transformer le langage et d'enlever tout ce qui dans le langage peut être négatif pour le remplacer que par du langage positif. Voilà, ça c'est la langue de bois, on en est là. D'accord ? Quand le capitalisme s'appelle développement, on est foutu. Parce que le développement, c'est un concept positif. Donc vous ne pouvez pas être contre le développement. C'est très, 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 très difficile. Vous pouvez pas être contre la démarche qualité, ou alors vous êtes un dingue, vous êtes contre la qualité, vous. Vous pouvez pas être contre l'harmonisation des diplômes, vous. D'accord? Et donc ça, c'est ce problème. Alors on organise avec le pavé des stages de désintoxication du langage, où les gens viennent, et c'est merveilleux. C'est merveilleux, parce que personne n'est dupe. On sait ça. On demande aux gens quels sont les mots qui vous embêtent en ce moment. Je me rappelle de cette dame qui arrive, qui me dit « moi, rebondir ». Moi, j'en ai marre de rebondir. Donc les gens savent ça. Je veux dire, les gens savent qu'on se fout de leur gueule quand on parle de dégâts collatéraux, quand on parle de choses comme ça, quand on parle de croissance négative, d'égalité des chances. Enfin, vous imaginez l'égalité des chances ? C'est soit l'égalité, soit les chances, hein, c'est pas les deux. L'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. Hein. C'est vachement intéressant. Hein. Alors, je pense qu'il y a eu de tout temps de la langue de bois. Il y a eu une langue de bois soviétique à l'époque, d'accord, c'est pas l'apanage de ce pouvoir-là. Mais il y a une langue de bois actuellement qui devient très très préoccupante, qui est celle de l'invasion, de l'envahissement, je sais pas comment dire, du vocabulaire de l'entreprise à toutes les sphères de la société. Mmh, mmh. Et ça, c'est très 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 embêtant. Et donc, on est en plein là-dedans en ce moment. Voilà. Alors ça fonctionne hein, la langue de bois, attention, parce qu'on pense avec les mots. On pense avec les mots. Donc si on nous change les mots, on pense différemment. Donc je raconte pour rire dans la conférence, j'ai un passage marrant où je raconte que avant, quand on parlait des pauvres, on disait les exploiter. Bon, le pouvoir nous a fait comprendre, si on voulait des subventions, fallait dire les défavorisés. Mais sauf qu'un exploité, c'est un mec qui a été victime d'une exploitation, un défavorisé, c'est un mec qui a pas eu de bol. Et donc, on va pas travailler de la même façon avec un type dont on pense qu'il y a un exploiteur quelque part ou un type dont on pense simplement qu'il n'y a pas de chance. On fait plus le même travail. Et donc, le pouvoir a compris que le mot change notre façon d'agir. D'où l'importance de se battre sur le langage. Mais ce langage est positif. Comment est-ce qu'on se bat contre des mots positifs? Eh bien, on ne sait pas. On n'a pas encore inventé les formes pour résister à ça.
C'était un entretien avec Franck Lepage, première diffusion le 16 juin 2010. Merci à François Grosjean et Nicolas Lambert. Le prochain rendez-vous avec la coopérative Le Pavé, ce sera à Narbonne, mardi 11 janvier, pour une conférence sur l'école intitulée « Et si on empêchait les riches de s'instruire plus vite ?». Vous retrouverez ces informations sur le site internet de la coopérative, www.scoplepavé.org, www.scoplepavé.org, ainsi que sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincé et Pierrick Monsigny, réalisation Corianne Guyenne et Franck Adhérer, assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Marina Touillez. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. À suivre, Carrefour de l'Odéon, bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Sophie-Marie Lemaire.
La Coupe du Monde féminine de ski et une troisième victoire en quatre courses pour Tessa Vorley. La Française a remporté cet après-midi le slalom géant de Semmering en Autriche. Fabrice Rigobert.
En tête à l'issue de la première manche, Tessa Worley, 21 ans, n'a pas craqué lorsqu'elle s'était lancée en dernière position, juste après l'Allemande Maria Rich qui venait de prendre la première place du classement. La skieuse du Grand Bornand, qui a perdu du temps sur la première partie du tracé, s'est ensuite rattrapée pour s'imposer avec 62 centièmes d'avance. Après Aspen et Saint-Moritz, Tessa Worley a signé son troisième succès consécutif, ce qui lui permet de conforter son dossard rouge de leader de la Coupe du Monde de la spécialité. Elle égale par ailleurs une autre grande championne française, Carole Merle, victorieuse de trois géants consécutifs durant la saison 91-92. Cette victoire la place dans une position idéale pour remporter le petit globe de cristal destiné à la skieuse qui terminera en tête du classement en slalom géant à la fin de la saison. Tessa Worley dispose maintenant d'une avance de 97 points sur la deuxième, l'Allemande Rebensburg.
Le Secours Populaire lance un appel aux dons. Cette nuit, son entrepôt de Roubaix dans le Nord a brûlé et c'est l'équivalent de 6 mois d'aide alimentaire pour 15 000 personnes qui a été détruit. Le Secours Populaire en appelle donc à la générosité des Français pour pouvoir rapidement trouver un nouveau local et reconstituer ses stocks. Le 1er juin 2009, le vol 447 d'Air France entre Rio et Paris s'abîmait en plein océan Atlantique. À son bord, 228 personnes, aucune n'a survécu. Aujourd'hui, la justice brésilienne condamne la compagnie aérienne française à indemniser la famille de 4 de ses victimes. Condamnation pour dommages moraux, Air France devra lui verser quelque 540 000 euros d'indemnité. 25 000 valises attendent toujours de retrouver leur propriétaire à Roissy après les intempéries de la semaine dernière et les nombreux vols annulés. De nombreux voyageurs ont dû quitter l'aéroport sans avoir pu récupérer leurs bagages déjà enregistrés. La seule compagnie Air France se retrouve ainsi avec 10 000 bagages sur les bras. La compagnie espère les avoir tous renvoyés à leur propriétaire d'ici à vendredi soir. Un an après l'enlèvement de leur fils, les parents de Stéphane Taponnier sortent de leur silence. Dans une interview exclusive accordée à l'AFP, ils se disent fatigués d'entendre les ministres faire des déclarations optimistes sans jamais être suivis des faits. Demain, cela fera exactement un an que Stéphane Taponnier et Hervé Létière, journalistes de France 3, ont été enlevés en Afghanistan, ainsi que leurs trois accompagnateurs. Une matinale spéciale leur sera consacrée demain sur France Inter et la famille de Stéphane Taponnier sera l'invité d'Éric Delvaux. Et puis, c'est un autre otage français dont on parle moins. Il est pourtant retenu depuis presque un an et demi en Somalie. Il s'agit d'un agent des services de renseignement, Denis Alex. Ce matin, le ministère français des Affaires étrangères a affirmé avoir reçu une preuve de vie. Des négociations particulièrement difficiles, je cite, sont en cours avec les ravisseurs.
Jeff Mills, pionnier de la musique électro, à la fois compositeur, performeur, producteur et DJ que l'on dit le plus rapide du monde, il fait vibrer des foules entières.
Charlotte Lipinska.
Profitant de sa venue à Paris, nous l'avions accueilli en trépignant, car The Wizard, le sorcier de Détroit, nous a offert un live exclusif et inédit. Écoutez le maître, écoutez le son.
Voulez-vous sortir avec moi ? Du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 23h.
France Inter.
La différence.
16h et pratiquement 4 minutes sur France Inter. Je vous laisse en compagnie de Frédéric L'Odéon pour Carrefour de L'Odéon.
Bonjour Sophie-Marie. Carrefour de L'Odéon. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de poursuivre l'exploration du gros coffret de Deutsche Grammophon 111. Pourquoi ? J'ai déjà dit la semaine dernière, on a écouté pas mal de beaux passages de ce florilège. Bien, on avait un peu raté chez Deutsche Grammophon le 100e anniversaire de la firme. Alors on s'est dit 111, ça ferait bien, 3, 1 qui s'alignent. Et puis quand on a eu un premier coffret, on s'est dit que c'était incomplet, c'était une première partie très sympathique, mais qu'il fallait poursuivre donc le deuxième bloc, le deuxième pavé, parce que j'entendais chez Daniel Mermet parler du pavé. Est paru et je vous propose donc d'en entendre quelques autres disques tout à fait passionnants ou même fameux, comme cette version de Carmen de Georges Bizet, dirigée par Claudio Abbado, avec le London Symphony, avec Madame Teresa Berganza, et voici une Seguidi, ou Seguidi comme vous voudrez, c'est une danse andalouse à trois temps qui revient de loin, puisqu'elle aurait été imaginée au XVIe siècle, donc près des remparts de Séville, et là, Carmen fait sa coquette. Elle échauffe et elle nargue Don José, qui n'en peut mais.
Mais ils ne sont pas à mon gré. Voici
boire du manzanilla. Oui, j'irai chez mon père Las Bastien.
Et toi, je t'avais dit que n'est pas de parler.
Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même. Il n'est pas défendu de penser. Je pense à certains officiers. Je pense à certains officiers qui m'aiment. Et comme on tourne, oui, comme on tourne.
Comment vivre si je sais, si je me livre, ta promesse tu la tiendras, ah, si je t'aime, Carmen, Carmen, tu m'aimeras.
Je le sois,
nous danserons,
tu le promets.
Carmen, en buvant du manzanilla.